Zéro, la fusée est partie. Voilà. Alors je vais toujours dire la même chose. Chers amis, si vous êtes à l'écoute, envoyez un petit canard, un petit cœur. Voilà. Nous, on va commencer, on va chanter. De toute façon, l'enregistrement sera à votre disposition après. Donc, pour le début, nous allons déjà chanter en attendant que vous arriviez tous.
Parle un peu plus haut, fort, Noël, parce que tu ne parles pas fort assez.
Voilà, vous avez vu les conseils de mon épouse.
Mon sauveur
m'aime,
qu'elle ferme un puits pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu m'assure des terres, vivre en homme de douleur. Voyez en moi misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, qui me sent ton amour. En retour, mon sauveur m'aime malgré mon iniquité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance. Il enlève mon souci, son amour immense est mon sûr abri. Jésus, qui peut sonder ton amour? Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qui porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il l'offre à ma foi. Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, je t'aime en retour.
Eh bien, bonjour, chers amis. Vous arrivez tous un après l'autre. Vous savez bien que je ne suis jamais à l'heure. C'est pour ça que vous arrivez. On prend maintenant l'habitude de chanter et puis tout le monde s'installe. Voilà. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous sommes ici dans un petit village dans la région de Blois, en Touraine, à Meslan, et encore pas dans le village, une ferme isolée, entouré de céréales chez des chrétiens. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que j'ai abordé l'autre fois le catholicisme suite à la demande d'une jeune fille, Déborah, de Champigny-sur-Marne. Et c'est un sujet qui est compliqué pour ceux qui ne sont pas nés là-dedans, même ceux qui, de toute façon, n'ont pas de confession de foi, ils ne savent plus ce que c'est que le catholicisme. À part voir le pape à la télévision, ils ne savent pas ce que c'est. Donc il est bon de reprendre. Le catholicisme n'a pas été créé par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité, il a envoyé ses apôtres pour en faire des disciples, pour leur enseigner pourquoi il s'est offert sur la croix et pourquoi il fallait que les pécheurs soient rachetés par pure grâce, par son sacrifice à la croix. Ce sacrifice avait été prévu et prédit par le Saint-Esprit à travers tous les apôtres et surtout tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'était Dieu qui l'avait consenti, c'est son Fils qui avait accepté. Que Dieu consente à perdre son Fils, c'est un cadeau, c'est un sacrifice suprême. Et de la part du Fils, c'est aussi un sacrifice suprême puisqu'il était sans péché. Tout ça par amour pour nous. L'Évangile est à la portée des hommes qui veulent comprendre qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Lisez l'Évangile. Je sais que parmi vous, dans ceux qui écoutent, j'en vois qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Lisez l'Évangile, par exemple, de Marc, et puis ensuite de Matthieu, de Jean, et puis de Luc. Et puis, réfléchissez, et puis si vous avez besoin de contact, ou cherchez un chrétien qui connaît sa Bible, et vous parlez avec lui. Alors, si vous avez le temps de venir jusque chez moi, vous pouvez le faire, naturellement, en m'avertissant. La vie chrétienne s'est répandue à travers la région de Jérusalem, Judée, Samarie, Galilée, d'autres régions du pays juif, et puis ensuite a débordé sur tout l'Empire romain. Et donc, à la fin du 1er siècle, voilà un dérapage. Il y en avait déjà eu des autres, je passe les détails. Hein. C'est pas possible de tomber, il faudrait tenir une conférence de 15 jours sur le catholicisme, à raison de 5-6 heures par jour. Mais en 105, je rappelle que Ignace d'Antioche, en Syrie, un évêque de cette grande église d'Antioche, qui avait une très grande influence dans le nord du Moyen-Orient, eh bien, Ignace d'Antioche affirme que là où il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas d'église. Et cela est un credo qui fait partie de tout ce que croient les papes, les évêques, les prêtres, c'est enseigné, moi j'étais enseigné là-dedans. Donc il faut une structure, il faut des responsables, sinon les chrétiens qui prient ensemble, qui se réunissent, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Voilà une idée un petit peu négative, destructrice, car Jésus avait dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu de vous. Bon, maintenant, cette idée est toujours restée. Elle est toujours dans le catholicisme, elle est même toujours plus forte, de plus en plus forte. En 180, à Alexandrie, donc c'est en Égypte, c'est aussi une grande capitale spirituelle. Il y a Origène, qu'on appelle un père de l'Église, mais pour moi il n'a pas engendré l'Église, il a plutôt fait du bien et beaucoup de mal. Il a décrété que, et il l'a proclamé partout, c'est dans tous les écrits, c'est dans les constitutions de base de l'Église catholique, que toutes les prophéties qui sont dans la Bible sont allégoriques, sont symboliques, n'ont pas de portée historique. Bon, on balaye les deux tiers de la Bible d'un seul coup avec ça. Et pourtant, c'est ainsi que ça s'est passé et que ça existe pour les églises protestantes et catholiques. Alors, à la fin du IIe siècle, il se passe autre chose, c'est que dans toutes les assemblées, il y a plus en plus de monde, et il y a ceux qui connaissent la Bible, ceux qui savent parler, puis ceux qui sont assis, ceux qui écoutent, et puis voilà. Donc, il y a un clivage qui se crée. Il y a ce qu'on appelle les presbytéros, les anciens, qui vont prendre la responsabilité d'enseigner et d'organiser les communautés. Et puis il y a les autres, laos, le peuple, ça a donné le mot laïque. Ceux qui reçoivent, je dirais parfois ceux qui consomment, et qui ne comprennent pas grand-chose parfois. Alors, diverses grandes personnalités se sont dessinées dans le Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen, suite à ce phénomène. Il y a des gens qui étaient spirituellement très intelligents, et très profondément attachés au Seigneur, qui ont prêché, qui ont fait des écrits, et donc, je vous ai déjà dit, Justin le Martyr, par exemple, Eusèbe de Césarée, Jean Chrysostome, mais il y en a des paquets, chers amis. On pourrait en citer 25-30, hein, au moins. Dans la tradition de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, on appelle ça les pères de l'Église. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul Père pour l'Église, c'est Dieu le Père. Simplement. On fait déjà une grosse gaffe quand on appelle des Pères de l'Église. Ce sont des humains. Alors, ils ont pris une importance extrêmement grande Ils ont marqué toutes les assemblées, toutes les communautés, et ils ont eu une influence, et il s'est fait des zones d'influence qui se sont créées un peu partout. Et puis, celui qui n'était pas sous l'influence de mon préféré, ben, ne m'intéressait pas. Comprenez? À titre d'exemple, je vous dis, les conséquences désastreuses de cette mentalité, c'est que quand la flotte de l'armée d'Antioche, de Syrie, des chrétiens, vous voyez, des chrétiens, comme il y en a beaucoup ici qui se disent chrétiens, va, longe toutes les côtes de Méditerranée pour attaquer Alexandrie, attaquer l'Égypte, un pays chrétien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Égypte, les responsables se disent, oulala, on va ramasser la fessée, on va appeler 2-3 000 cavaliers qui viennent d'Arabie, et c'était le début de l'islam. Les cavaliers sont arrivés dans Alexandrie, et ils ont occupé le port pour défendre le port, et la flotte de Syrie, soi-disant chrétienne, pas plus que Poutine et les Ukrainiens, ou les Français et les Allemands pendant la guerre, eh bien, ce qui se passe, c'est que la flotte d'Antioche s'en va, elle retourne. Mais ce qui s'est passé, c'est que les cavaliers musulmans sont restés dans Alexandrie et ils ont brûlé la plus grande bibliothèque chrétienne et juive qui existait au monde à cette époque-là. Et puis l'Égypte était dans les mains des musulmans. Et hop, on passe à l'islam. Toute cette façon de faire entre les grands leaders spirituels ou apparemment spirituel, a amené, ce leadership ont amené des zones d'influence qui, pour finir, ont appris à s'ignorer, et c'est comme des clans, ils ne se comprennent plus. Ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'on fasse ça. Le corps de Christ, l'image que Jésus a déposée à ses apôtres, n'est pas ça. Comprenez bien, mais c'est l'histoire. Il y en a d'autres, je vous en raconterai d'autres après. Alors, tout ce qui a été semé durant le deuxième siècle a une grande importance. Il y a ceux qui savent dans l'Église, ceux qui ne savent pas. Il y a ceux qui vont tout savoir, qui vont prêcher, puis ceux qui sont assis, en somme. On en est là pour beaucoup d'Églises aujourd'hui. Et c'est un mal qui est resté. Parce que tout chrétien est appelé à lire la parole de Dieu et à la connaître. Et on doit se mettre ensemble à l'étudier, à la partager. De manière à ce que tout le monde progresse. Dieu brother in Pakistan, God bless you. Alors, au IIIe siècle, des grands dirigeants régionaux sont vraiment installés. Là, c'est incontournable, c'est l'histoire qui nous le prouve. L'évêque de Rome, l'évêque d'Alexandrie, l'évêque de Constantinople, l'évêque d'Antioche, l'évêque de Carthage, la Tunisie, l'évêque de Lyon, sur le Rhône, en France, et puis, après, il y en a eu d'autres, ça y est, ça se multiplie, hein. Quand il y a eu des chrétiens en Angleterre et tout ça, ben, chacun a eu son grand évêque et sa grande zone d'influence, et c'est humain, je comprends que c'est humain, c'est historique, c'est arrivé. On ne peut pas dire qu'on va balayer ça, c'est arrivé. Bon, ce qui se passe, c'est que durant ce IIIe siècle, l'évêque de Rome, qui était à la capitale, et où il y avait l'empereur, a fait des tentatives d'influence sur tous les autres, sur tous ceux que je viens de citer, Alexandrie, Constantinople, Antioche, Carthage, Lyon. Et par des intrigues, par des influences, ou simplement des prédications, il est arrivé tout doucement à renforcer son autorité et à vouloir mettre son autorité morale et spirituelle sur les autres évêques, et à devenir la tête. Et on trouve des centaines d'écrits d'origine, de tous ces... Quand on étudie tout ça, hein, il y avait une bibliothèque énorme où j'étais au séminaire, 44 000 volumes, chez les jésuites, 72 000 volumes, 72 000. Ben, dans tout ça, on peut chercher, on trouve. Et donc, il y a des centaines de courriers de tous ces évêques, des pères de l'Église, comme on les appelle, qui rouspétaient et qui ne voulaient pas que l'évêque de Rome se donne une prérogative. Il a quand même continué. Même si Jésus, dans son évangile, l'interdit aussi. Alors, le leader spirituel de Rome est dénoncé par les autres leaders spirituels. Ça y est, c'est la pagaille qui commence. Hein? Ça devient plus sévère. Ensuite, Je vous donne un cas bien flagrant en Antioche, dans la Syrie, un évêque, oui, un évêque qui était un Antioche, Cyrus, décrète que Dieu a créé Jésus-Christ, que Jésus-Christ a créé les hommes. Arius a créé l'arianisme. Des milliers d'églises ont suivi et il a eu l'appui des hommes politiques. Il a pris des armées pour aller nettoyer les autres églises qui croyaient toujours dans la divinité et l'humanité complète de Jésus-Christ. Nettoyer, vous comprenez bien ce que ça veut dire, par la force. Il y a eu des hommes courageux et des femmes courageuses qui ont continué à prêcher ce qu'on appelle la nature hypostatique de Jésus, c'est-à-dire l'égalité en Jésus de la nature divine et de la nature humaine. Dieu fait homme. Et il y a eu des martyrs sous la main des arianistes. Vous imaginez qu'ils étaient chrétiens aussi. Là, ça se gâte. C'est un exemple. Ça se gâte. Et ça commence. Ce ne sera pas fini dans l'histoire. Alors, où est le catholicisme là-dedans? Je vais vous dire que moi, tout ce qui est catholicisme en Occident et religion orientale du côté de l'Est ont connu des phénomènes semblables. Donc, c'est un dérapage complet de la chrétienté. Alors, je voudrais vous indiquer, je reprends ce que j'ai dit l'autre fois, mais on va cette fois-ci dans les paraboles de Jésus en Matthieu chapitre 13. Et Jésus et Dieu, il a tout annoncé, on n'avait qu'à en tenir compte. Et oui. Et comme toujours, on en fait chacun qu'à sa tête. Et on met Jésus à la sauce pili-pili, l'autre à la sauce tartare, l'autre... Vous comprenez? On arrange la vérité à sa façon, mais c'est plus la vérité. Alors, Matthieu 13, verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et le mangèrent. Les corbeaux, les merles, etc. Bon. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais cette expression, que celui qui a des oreilles pour entendre, on la retrouve dans l'Apocalypse, au discours de Jésus-Christ aux sept églises. Voilà. Alors, il faut bien savoir ceci. Le semeur, c'est Dieu. Qu'est-ce que signifie la parole du semeur? Le semeur, c'est Dieu, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il sème la parole, il sème l'évangile. Et chacun l'entend à sa façon. Bien sûr, je ne vais pas dire que quelqu'un sera toujours le chemin empierré, l'autre sera toujours le chemin le buisson d'épines. On peut être à tour de rôle dans notre vie, une bonne terre qui accueille, et puis tout d'un coup, on devient un buisson d'épines. Parce qu'on retourne à la chair. Ou on peut tomber dans un caractère. Parce qu'on est dur, on a un caractère dur, on devient comme le sol dur. Et ben ça se dessèche. L'autorité de la parole se dessèche, il n'y a plus que le moi-je qui compte. Tout cela, ça peut s'analyser. Dans un bon enseignement, quand on veut que les chrétiens comprennent ce que ça veut dire, la parole de Dieu doit être acceptée. Dans Luc, il est dit que c'est ceci, avec persévérance, honnêteté et droiture de cœur. Donc, il est clair qu'il y a différentes façons d'accueillir la parole de Dieu au premier siècle, dans la première génération, quand Jésus est là. Mais attention, il y a une deuxième génération. C'est pour ça que j'aborde le sujet. Et la deuxième génération correspond à une autre parabole, pas celle-là. Jésus leur proposa, Matthieu 13, verset 24, une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe fut poussée, il donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Vous savez, quand on est sincèrement chrétien, des fois, on se pose des questions pareilles. Bah, attention d'être livré un jour aussi. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est un ennemi qui a fait cela. Jésus répond ça. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez l'engère pour la brûler, amassez le blé dans mon grenier. L'explication de celle-ci, de cette parabole, concerne les deuxième, troisième, quatrième génération. Jusqu'en 315. Ça fait quelques générations tout de même. Si on compte environ 43 ans par génération, parce que pas de médecine, etc., les gens mouraient, c'est une moyenne d'âge, 43 ans, dans ces cas-là. Parfois moins. Alors, c'est des famines. Alors, au chapitre 13, verset 36, Jésus explique, parce que les disciples lui demandent, ils ne comprennent rien. Alors, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, c'est le Fils du royaume. Et Fils du royaume, c'est quoi? Ce sont de vrais chrétiens nés de nouveau qui aiment Christ et qui pratiquent la parole de Dieu. Comprenez bien. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, au deuxième, troisième, quatrième, etc., autre génération, il y a de la bonne semence, ce sont ceux qui sont vraiment enfants de Dieu. Et pourquoi dire ça? Parce que au chapitre 5, verset 9 de Matthieu, nous allons voir. Tout ça, ça semble loin du catholicisme pour l'explication, mais pas du tout. C'est là qu'on trouve les bonnes explications. Alors, les vrais fils du royaume, où les trouve-t-on? Dans les Béatitudes, chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Procurer quelle paix? Ben, par le témoignage, par la parole de Dieu, par la vie qu'il mène, les personnes se rapprochent de Dieu, croient en Jésus-Christ, reçoivent le pardon de leurs péchés et reçoivent la paix avec Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Voilà les fils du royaume. Ceux qui apportent la paix venue du ciel par le sang de Jésus à la croix. Donc, c'est les gens qui sont fidèles au vrai évangile. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Alors, il y a des fils du malin? Il y a des fils du malin, croyez-vous? Où sont-ils donc? Où sont-ils donc, ces fils du malin? Les fils du malin, regardons un peu plus loin, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde. Donc, le diable a semé dans les communautés chrétiennes, dans toutes les chrétientés, dans toutes les zones d'influence dont je vous ai parlé, dans toutes les communautés, il a amené des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui viennent dans les églises parce qu'ils sont gentils, on est aidés, etc. Ou on se sent bien, on a moins de tourments, on ressent de paix, mais on ne se donne pas à Jésus-Christ. Beaucoup de gens que je rencontre sont curieux de savoir qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne se repentent pas devant le Seigneur, ne donnent pas leur vie à Christ, ils ne reconnaissent pas leur nature pécheresse. Ils ne reconnaissent pas la valeur sacrée de la mort de Jésus pour eux. Et le don du Saint-Esprit, ils ne l'ont pas reçu, et ils sont dans l'Église. Qui peut les reconnaître? Le blé et l'ivraie se ressemblent dans la parabole. Eh bien, il y a des gens qui sont doués pour paraître chrétiens, qui ont à peu près le comportement des chrétiens. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 2 et 3, vous allez voir sept églises. Il y en a que trois sur les sept qui sont à peu près acceptables. Surtout celle de Philadelphie. Toutes les autres, les six, il y a énormément d'ivrées. On est au début du christianisme. Alors maintenant, donc, les fils du malin, ce sont des personnes qui sont venues avec la chair dans la communauté chrétienne, qui ont peut-être confessé Jésus, qui ont été baptisés, parce qu'à cette époque-là, pendant des siècles, on a baptisé tout le monde par immersion. On a baptisé quand quelqu'un demandait, quand il disait qu'il croyait. Mais quand quelqu'un confesse Jésus et qu'il dit qu'il croit en Dieu, au fond du cœur, dans la réalité, Dieu voit ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est la parabole. La parabole le dit là. Alors, la parabole nous avertit qu'il va y avoir des problèmes dans toutes les communautés, dans la progression de la foi chrétienne dans le monde. Ici, je ne fais jugement de personne. Mais c'est quand même le Christ, notre Seigneur, qui a dit ça. Alors, cette tentative d'être chrétien pour certains et de rentrer dans les églises, tout en n'ayant rien changé dans leur cœur et leur vie, et en sachant dire des prières et chanter des beaux chants, etc., en étant baptisé, ça existera toujours. Qu'est-ce qui compte, chers amis? Qu'est-ce qui compte? Eh bien, si vous allez voir dans Galates, il dit ceci, chapitre 6, verset 14 et suivant. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu? Ça, c'est du bon blé, ça. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Rendez compte de la rupture. La rupture avec toutes les fausses valeurs du monde. Et Satan, le péché. Comme je le suis pour le monde. Je suis crucifié pour le monde. Ben oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aimait, hein, Paul, à part des chrétiens, quelques chrétiens. Verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis, donc juif, ou incirconcis, non juif. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ah ah, la nouvelle naissance. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Jean chapitre 3. La chair ne sert de rien. Il te faut naître de nouveau. Nous y voilà. Et paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, c'est une règle absolue pour la chrétienté. Il faut naître de nouveau. Et donc aussi pour le monde juif, pour les conversions. C'est en cours. Donc, nous voyons bien que la deuxième, troisième, etc., génération, on ne peut pas reprendre la parabole de la semence. On doit prendre la deuxième, celle du blé livré, pour être d'un profond réalisme sur la façon dont ça se passe devant nous, derrière nous, partout, peut-être dans mon cœur. Alors, cet ivré, bien sûr, c'est quelque chose d'embêtant. Cet ivré, il pose des problèmes. Parce que dans un champ où on laisse le livré se répandre, c'est des filaments, ça remplit tout, à 15 cm, 10-15 cm, ça étouffe le blé. Pour finir, il n'y aurait plus que de livré. Livré, s'il est extrêmement important, il peut être contrecarré. Comment? Eh bien, Jésus a dit que avec quoi salera-t-on la terre? À l'époque de Jésus, les paysans mettaient du sel marin dans le fumier. Et quand ils avaient mélangé ça avec la terre, ils avaient un sol moins acide et progressivement l'ivré était déforcé. J'ai essayé dans le champ et on peut dire 90%, 90% de l'ivré disparaissait en 2-3 ans. Il en restait toujours. Mais c'était plus un fléau. Donc le sel, si vous voulez, qu'on doit jeter sur la terre, si vous voulez bien m'écouter, c'est pas le sel qu'on jette dans le fumier, cette fois-ci, c'est une image. C'est que quand je sers le Seigneur, que j'annonce l'évangile, que je suis né de nouveau, il faut que je sois salé de feu, c'est-à-dire de feu, eh bien, salé de la parole de Dieu. Parce que le feu de Jérémie, chapitre 24, je pense, Jérémie, chapitre 24, je vais voir tout de suite pour vous puissiez le noter. Si je ne le retrouve pas, c'est peut-être au 23. Voilà, chapitre 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» La parole purifie le cœur de l'homme. Purifie. Donc un chrétien qui évangélise, un chrétien qui se dit né de nouveau, peut-être qu'il l'est, mais qui ne lit pas la parole de Dieu et qui ne la vit pas, n'est pas salé de feu. Donc, il développe à l'entour de lui, tout en évangélisant, il développe tous les vices qu'il a en lui et il étouffe ce quand il apporte à quelqu'un, il apporte l'évangile, la personne va avoir besoin de lui, elle va grandir et il va l'entourer de toutes ces misères humaines, de tous ces travers charnels, humains. Ok? Donc, le salé, être salé de feu, c'est salé de la parole. Le chrétien qui veut servir, évangéliser, doit toujours être renouvelé, purifié dans la parole de Dieu. Ou autrement, on devient un mauvais serviteur. Oui, on va peut-être gagner quelques âmes dans sa vie, mais, finalement, on a empêché ceux à qui on avait parlé du Seigneur, qui l'ont accepté, on les a empêchés de grandir, de mûrir, de porter du fruit. Hein? Ça reste du petit blé, là, des chrétiens qui vivotent. Le problème, chers amis, c'est de choisir son chemin quand on est enfant de Dieu. Il faut être salé de feu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Pour que les impuretés ne viennent pas. Les impuretés de mon cœur ne viennent pas dans le cœur des autres. Parce que ça se contamine vite dans une église. Les vices, même cachés, ça se contamine vite. Les esprits qu'on peut avoir, qu'on peut apporter dans une église. Donc, les mauvaises relations qu'on a, etc. Et qu'on doit régler les mauvaises relations. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Donc, celui qui n'est pas vraiment dans l'évangile, il fréquente des gens qu'il ne devrait pas fréquenter. Ou en tout cas, clairement, pas charnellement. S'il est salé de la parole de Dieu, il peut les fréquenter pour les évangéliser. Encore, de préférence à deux. Il ne faut jamais se croire trop malin, trop fort. Alors, vous avez compris, j'espère, que ce qui s'est passé au deuxième, troisième siècle est toujours conflictuel. La progression de l'évangile est conflictuelle. C'est pour ça que vous trouvez dans Marc et Luc toujours le royaume de Dieu. Repentez-vous, repentez-vous. Mais ce qu'il y a dans Matthieu est un juif qui a beaucoup travaillé et écrit pour les juifs convertis. Et il a employé l'expression royaume de Dieu pour quand Jésus installera son royaume sur terre. Et il a employé pour le temps de l'église royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, d'une manière astucieuse, chaque fois, il répète ce que Jésus a dit, il va y avoir du pour et du contre dans toute la chrétienté jusqu'à son retour. Et il a employé le mot « royaume de cieux » pour montrer qu'il y a des brebis des boucs, qu'il y a des blés livrés, et qu'il y a des gens nés de nouveau, il y a des gens pas seulement nés de nouveau, mais qui ne mettent pas en oubli la purification de leur péché, dit Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, qui continuent à se faire purifier par rapport à Dieu, ceux-là sont des bons serviteurs, ceux-là c'est vraiment les enfants de Dieu qui peuvent servir la cause de Dieu. Vous voyez à quel point la parole de Dieu est comme un bon scanner, elle voit tout. Hein. Pas seulement le squelette, mais elle voit le cœur, elle voit l'âme, la pensée et tout. C'est par la parole de Dieu qu'on sait où on en est. Alors, reprenons. Comment apparaissent des tendances si fortes, si variées dans la chrétienté? Ben parce que c'était annoncé par Jésus. C'est Jésus le savait. Et Jésus dit à ceux qui sont fidèles à lui, dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. Donc, livré sera vaincu. Tout ce qui est faux sera vaincu. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, un vrai chrétien rend témoignage à la vérité comme son roi, comme son seigneur. Qui rend témoignage de lui-même, de ses faiblesses et de ses vices, ben ça, c'est un gros problème. Bon, on en a tous des faiblesses. Mais il faut quand même pas s'y plaire. Alors, continuons dans la description du troisième siècle. Donc, chaque région a son leader spirituel, Rome cherche à prendre la main sur tout le monde, il utilise des intrigues, etc. Donc, c'est de Livry. Si vous voulez mon avis, déjà Livry était à Rome. Dans toutes les grandes capitales spirituelles, on cherchait le pouvoir. C'est de Livry. C'est pas comme ça que Jésus a parlé. Jésus n'a jamais parlé comme ça. Jésus a toujours voulu qu'on reste humble et petit. Je voudrais vous retrouver ce verset dans Matthieu chapitre 23. Voici le chapitre 23, verset 8. « Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, si vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père. » Donc, Saint-Père, Mère supérieure, Père directeur, directeur spirituel. Vous voyez tout ce qu'on a allongé, là, la Mère supérieure, etc. Et des fois, même si on n'emploie pas les mêmes mots dans le protestantisme, parfois dans le milieu évangélique, c'est à tout comme, on a le même esprit. Attention. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et rappelez-vous Jean chapitre 13, quand Jésus lave les pieds de ses disciples, il a dit, heureux si vous faites comme moi. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Heureux si vous faites ce que je vous ai dit. Donc, la grandeur du vrai chrétien, du blé, c'est le service, la consécration, comme le maître, comme Jésus. Quiconque s'élèvera sera baissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, nous voyons bien à quoi s'exposent tous ces courants spirituels, avec toutes ces blagues historiques, sévères et cruelles. Regardez, elles tombent sous le jugement de cette parole. Alors, faisons attention à nous. Parce qu'il n'y a pas que des autres qui pêchent. Alors, à la fin du IIIe siècle, les responsables spirituels se trouvaient confrontés à travers le bassin méditerranéen à des centaines de livres, des centaines d'écrits sur Jésus. Mais il y en avait des terribles. Il y en avait où on voyait Jésus petit, qui prenait un escargot, puis qui en faisait une girafe, un autre une pierre, il en faisait des morceaux de pain, vous voyez. Alors, il y a eu plein de courants, de plein de trucs invraisemblables qui ont été écrits, et il a fallu faire un tri. Alors, à Muratori, un village au nord d'Italie, beaucoup de responsables spirituels qui aimaient Dieu, qui aimaient la vérité, se sont réunis et ont dit « Mais il faut qu'on fixe un canon. » Qu'est-ce que c'est qu'un canon ? C'est un bâton de 99 cm, 99 pour les Belges. C'était la mesure. Le mètre n'existait pas. C'était la mesure égyptienne. C'était répandu dans tout le bassin méditerranéen. Le canon, c'est la mesure pour savoir quels sont les bons livres, ceux qui sont inspirés de Dieu, ceux qu'il faut mettre de côté et ne plus lire. Pas accorder de l'autorité dans les assemblées, dans la vie chrétienne. Le canon de Muratori a donc fixé des critères et ça a donné la Bible que nous avons. C'est un point spécial, s'il fallait approfondir ces choses-là, il voulait expliquer, mais c'est trop long aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une recherche très sérieuse de la vérité à travers tous ces siècles-là. Il n'y a pas que des défauts. Les pauvres hommes qui aimaient le Seigneur Jésus et qui aimaient la parole de Dieu se sont quand même battus sans épée pour que la vérité reste proclamée. Eh bien, chapeau. On peut remercier d'avoir de tels ancêtres chrétiens. Alors, les baptêmes. Parlons des baptêmes. Au début, les baptêmes étaient pratiqués dans toutes les églises. Les sept églises d'Apocalypse, les bonnes comme les mauvaises, on voit, tout le monde était baptisé. C'est tous des baptistes, des évangéliques. Il n'y a rien d'autre à cette époque-là. Tout le monde confesse Jésus pour être baptisé. Donc, il faut faire attention aujourd'hui parce que on peut retomber dans tous ces travers historiques. Ça est déjà arrivé. Alors, ce qui se passe, c'est que le baptême est accepté, pas forcément quand quelqu'un est né de nouveau, converti. Il a été dans l'église, il a grandi, etc. Il n'a pas une réelle notion de son péché, de sa rupture avec Dieu. Il n'a pas le sens de son péché, il ne le voit pas. Mais il est influencé par le milieu chrétien, il aime la foi chrétienne, eh bien, on va l'enseigner 3 ans. Et il y a un livre qu'on appelle la Didache, il y avait un livre, un catéchisme si vous voulez, plein de bassins méditerranéens, on peut le retrouver, si vous voulez, aussi. Ça, c'est une chose qui existe, on peut retrouver, en grec et en latin, où on enseignait pendant 3 ans les candidats au baptême. Bon, les candidats au baptême, eh bien, c'était des gens de bonne volonté, mais étaient-ils nés de nouveau? La question se pose encore aujourd'hui. Quelqu'un de bonne volonté doit-il être baptisé? Est-ce le moment? Quel est le moment que Dieu veut? Quelles sont les conditions de Dieu? Pas celles du pasteur ou de l'Église. Alors, il faut être prudent. Il faut beaucoup de prières, beaucoup de discernement, et surtout que la personne sache ce que c'est que son péché. Et ça, qui peut donner une notion exacte du péché à quelqu'un? Eh bien, chers amis, nous allons aller voir dans Jean. Dans Jean. Je pense chapitre 14 ou 16, on va aller voir ça tout de suite. Et Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille pour donner le Saint-Esprit. Ah! Mais le Saint-Esprit, pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, il ne peut pas le recevoir. Jean 14. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit Saint, il ne le connaît pas. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit Saint ne comprend pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Et il ne comprend pas son péché. Le gouffre dans lequel il est. Il dit ceci, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Donc, on voit déjà qu'il y a deux façons de fréquenter Jésus. Alors, si nous allons dans Jean chapitre 16, regardez bien ce qu'il dit. Chapitre 16, verset 7. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, Paraclétos, le Saint-Esprit, ne viendra pas sur vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ne viendra pas sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous allons dans les Épîtres, et tout ce qui explique la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est en nous. Et il faut faire une différence très sérieuse. Quand il vient sur moi, c'est pour me montrer mon péché. Quand j'ai confessé mon péché, que j'ai cru dans le sacrifice de Christ, et que j'ai reconnu de mon cœur et de ma voix le sacrifice de Christ pour moi, alors le Saint-Esprit vient en moi. Mais là, c'est sur vous. Alors, le Saint-Esprit est nécessaire à l'œuvre missionnaire de l'Église. Sans ça, on peut toujours parler, c'est de la parlotte. Alors, donner des Bibles, donner des traités, etc., faire des prédications. Mes chers amis, j'invoque le Seigneur dans la prière pour que l'Esprit Saint soit sur vous, si vous n'êtes pas encore chrétien. Sur vous, pourquoi? Parce qu'il est sur vous, comme un chapeau, il va vous suivre. S'il est sur vous, comme le ciel est sur vous, ben, il ne vous lâchera pas. Alors, le Seigneur, le Saint-Esprit, est sûr, et peut être sur quelqu'un, pour quoi faire? Pourquoi faire, chers amis? Quand il sera venu, il convaincra le monde, donc les non-croyants, donc, si parmi vous, il y en a qui sont encore dans le monde, c'est-à-dire sans le Christ en eux, sans le Saint-Esprit en eux, eh bien, s'ils ne sont pas nés de nouveau, eh bien, qu'est-ce qu'il a mis? Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché, le fossé d'avec Dieu. Je ne suis pas mis avec Dieu. Mes pensées, mes sentiments sont rebelles à Dieu, à tout ce qu'il me demande. Je ne connais pas Dieu. Bon, bien sûr, le Saint-Esprit va me montrer mon péché, je vais commencer à en souffrir. Et il y a une tristesse qui amène à la repentance. Et ce qu'il y a, il y a une joie quand on a tout, on a accepté de passer par cette étape. Le Saint-Esprit convainc de péché, et puis ensuite, il convainc de quoi, chers amis? De justice, c'est-à-dire, le Saint-Esprit montre à la personne qui a compris son péché que la justice de Dieu, le pardon qu'il donne est gratuit, et qu'il a beau faire, il ne sera jamais sauvé par ses œuvres, par ses mérites, par tout ce qu'il fait. La justice de Dieu est donnée par le sang de Jésus à la croix. Et quand la personne a compris ça, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. C'est impossible de comprendre ça par la raison, chers amis. Alors, le troisième point, c'est que le Saint-Esprit continue à travailler et il opère un jugement. Pourquoi ? Le Saint-Esprit va agir dans la personne qui a reçu la vie divine pour lui montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Tous les jours, elle va être sous le jugement, elle va être conduite directement par le Saint-Esprit et pas par M. le curé, M. le pasteur. La personne va être conduite dans la vérité, elle va amener à progresser parce que le Saint-Esprit est là. Alors, chers amis, vous avez mieux compris maintenant ce que c'est que la bonne semence. Et la semence fausse, livrée, c'est quand la personne, ben, le Saint-Esprit, ne lui a encore rien dit. Et pourtant, c'est bizarre, elle a parlé de Jésus, on l'a baptisé, on ne voit aucun fruit, on ne voit aucun signe. Ça arrive. Ça arrive. Parce que, comme pasteur ou ancien à l'église, parfois, on n'a pas vu. Mais et la personne n'a pas vu non plus. On est tous de bonne foi. On est de bonne volonté. Mais Dieu le savait. La parabole, c'est ça. C'est inévitable. C'est notre réalité. C'est notre réalité. C'est une réalité qu'il faut vivre, mais si quelqu'un a été baptisé et confessé Jésus, et qu'il n'est pas né de nouveau, il ne faut surtout pas qu'il aille trouver quelqu'un pour avoir l'effusion du Saint-Esprit. On met les mains, il tombe par terre, etc. Il a des grandes émotions, des bouleversements. Jésus n'a jamais demandé ça. Si quelqu'un, à ce moment-là, n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, il est clair qu'il aille retrouver sa communauté et qu'il le dise. Il aille retrouver les responsables en disant « J'ai découvert un problème. » Et peut-être que les communautés l'ont déjà vu. Donc il y a une jonction. On peut prier avec la personne dans la communauté et être honnête. Prier, intercéder, jeûner, même s'il le faut, pour que la personne passe de la mort à la vie. Jean 5. C'est pas le baptême qui fait passer de la mort à la vie, chers amis. Jean 5. Verset 21. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc Jésus-Christ est souverain pour donner la vie éternelle. Ce n'est ni le pasteur, ni le baptême, ni l'Église qui donne la vie éternelle. On va y venir après. Parce que le grand égarement qui est venu et qui est à la base de la naissance de l'Église catholique, c'est que c'est l'Église qui donne le salut par le baptême et les sacrements. Vous avez compris? J'ai voulu vous faire mûrir le problème de qu'est-ce que c'est qu'être catholique ou être chrétien. Chrétien en Christ par l'œuvre du Saint-Esprit et de sa parole. Mais j'ai rien contre les catholiques, hein, chers amis. Mais rien du tout. Hein. Je les aime tous. Sauf... J'ai du mal à aimer ceux qui sont au-dessus, qui dirigent tout dans le mensonge. Du mal. Il faut que je me surveille. Alors, continuons. Chapitre 5, verset 23. Alors, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. L'amour de Jésus dans la vie, le respect de Christ et de son sacrifice et de sa résurrection et de sa parole font partie de l'amour de Dieu. Comme dit Jean dans son épître au chapitre 4, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Tous ceux qui disent croire en Dieu et qui ne veulent pas du Fils sont des antéchrists, dit Jean dans son épître. Alors, verset 24. En vérité, amin, amin, c'est un oracle, c'est une déclaration solennelle, un décret. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Qui écoute ma parole, c'est-à-dire, et qui croit en celui qui m'a envoyé, croire dans Jean, c'est adhérer. Adhérer. adhérer, c'est être scellé. C'est terminé, on a pris la décision définitive. Et ne vient point un jugement. Donc Dieu ne conduira pas en enfer. Même si encore après il y a des péchés. Il y a une assurance du salut. Il est passé de la mort à la vie. La mort, c'est la vie sans Dieu. La vie, c'est la vie en Dieu. C'est Dieu qui vient en moi, le Saint-Esprit, et qui me conduit pour l'éternité. C'est pas jusqu'au cimetière, il me conduit pour l'éternité. En vérité, je vous dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts, c'est qui? Chacun de nous qui se trimballe sur le, dans le train, dans le bus, qui va sur le trottoir, qui conduit un tracteur dans les champs, qui distribue les lettres dans les, hein, avec la camionnette de la poste. Tout quiconque n'est pas né de nouveau est mort. Est mort, est séparé de Dieu. Eh bien, ils peuvent entendre la voix du Fils de Dieu. Comment? Par les véritables enfants de Dieu qui apportent la parole de Dieu. Ils peuvent entendre la voix qui leur donne la vie. Alors, je relis le verset, il est très important. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue. Donc, c'est fait. Dès le moment où Jésus a semé sa parole sur le monde, a donné son témoignage, sa mort à la croix et sa résurrection, c'est clair, l'heure est là. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Chers amis, cette promesse est complète. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Si vous comprenez ces textes, vous pouvez comprendre d'où vient historiquement et spirituellement les égarements qui ont donné parfois ce qu'on appelle le catholicisme ou l'orthodoxie, etc. Et même maintenant aujourd'hui, le protestantisme est dans le cas, dans le lac. Sauf que Dieu agit dans le cœur de tout le monde, l'Esprit Saint vient sur certaines personnes, parmi les catholiques, parmi les orthodoxes, etc. Il apporte un signe spirituel dans la conscience, tu es un pécheur, tu es séparé de moi. Il est donc toujours possible, personne n'est rejetable, toujours possible que la grâce vienne chez quelqu'un, un musulman aussi. La grâce vienne pour qu'il découvre la nouvelle vie, la reçoive. C'est dans la volonté de Dieu. Donc, on a eu un dérapage, c'est que les baptêmes se sont faits après un enseignement aux personnes de bonne volonté et aux personnes qui parfois n'ont pas compris. Eh bien, nous avons des enfants, on a bâti nos enfants, ils étaient de bonne volonté, ils aimaient Dieu, etc. Mais certains n'ont pas compris leur péché, leur nature pécheresse, on croyait. Et ils n'ont pas compris la nouvelle naissance. Eh oui, monsieur le pasteur que vous avez en face de vous, n'y a rien vu. C'est pourquoi, dans l'histoire de la chrétienté, ça arrivera encore. Il n'y a que Dieu qui voit tout. Alors, dans le IIIe siècle, il y a un autre problème, c'est que il apparaît des gens qui ont entendu l'évangile et puis tout d'un coup ne veulent plus vivre dans la luxure, dans le sexe, dans la guerre, etc., dans les affaires du monde. Alors, beaucoup se sont retirés sur le Nil, il y avait beaucoup d'îles sur le Nil, et ils vivaient là en ermite, dans une grotte, ils faisaient une cabane et ils vivaient là pauvrement. Ça s'appelle des cénobites. Et ces gens-là ont été nombreux. Il y a eu un courant à partir de fin du IIIe siècle, déjà durant le IIIe siècle, de cénobites. Et puis parfois, ils étaient, l'île était grande, à 5 ou 10, des communautés d'ermites. Ces cénobites avaient l'air plus sains que les autres. Ils étaient radicaux, etc. Ils pratiquaient l'ascèse, le célibat. Mais est-ce que le célibat est voulu par Dieu? Comme ça? Sauf si on est appelé par Dieu à rester au célibat, le célibat peut être une source d'égarement. Colossiens chapitre 2, verset 23. Et donc, à l'époque où Paul prêche, il y a déjà des gens qui veulent être chrétiens de cette manière-là, mais les apôtres ont fait un frein énorme. Pourquoi? Parce que dans la mentalité grecque, la femme, le corps de la femme était sous-estimé, banalisé. le beau corps, c'était celui de l'homme. Dans les Jeux olympiques, etc., ils étaient tous tout nus, ils couraient entre eux, il n'y avait pas de femmes. On valorisait le corps, la musculature, les champions masculins et la femme. Eh bien, la femme, ben, ça sert à faire des gosses, c'est tout. Et à partir de 7 ans, on reprenait les enfants, on les mettait dans l'armée spartiate, les armées d'Athènes, on les privait de la femme. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait une structure mentale telle qu'on défavorisait l'image de la femme et du mariage. Bon, les chrétiens, quand ils sont arrivés dans un milieu pareil, c'était pas joli joli. Et donc, il a fallu qu'ils réagissent en disant, mais non, vous ne pouvez pas pratiquer un célibat comme ça, etc. Colossiens chapitre 2, donc d'abord à propos de l'ascèse, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et doctrines des hommes. Donc, déjà l'ascèse, Paul la critique. Il y avait déjà les gens qui avaient tendance à brider le corps. Je ne dis pas qu'il faut être épicurien, hein, mais en tout cas, c'était à l'excès. Verset 23, ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, et que cela est sans valeur réelle, ne sert qu'à satisfaire la chair. Et après, quand vous voyez dans Corinthiens, bien sûr, c'est aussi des gens de cette civilisation, quand Paul dit, je pense que c'est au chapitre 7, en première, au chapitre 5, on va voir, il dit ceci, chapitre 7, verset 2, 1 Corinthiens, toutefois pour éviter la débauche, mais la débauche c'était le dérèglement, c'était homme avec homme, hein. Mes amis, dans le monde grec, c'était des champions de l'homosexualité. On faisait même du commerce, on achetait des enfants dans les autres pays. Alors, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin d'être libre pour la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Eh oui, évidemment, parce que dans le monde grec, si on ne considérait pas le mariage de manière sérieuse, ici Paul met les choses au point, eh bien on retrouvait un homme avec un homme, une femme avec une femme, etc., et des pédophiles, et on ne se gênait pas. Ça ressemble fort à certaines régions d'Europe et à certains courants. Le mariage a été voulu par Dieu, a été institué par Dieu. Dieu a voulu que l'homme et la femme vivent ensemble et ne fassent qu'une seule chair. Et c'est clair que le monde où le christianisme est arrivé, l'évangile est arrivé, le monde grec, eh bien, avait déjà saboté le mariage. Comme on le sabote encore aujourd'hui. Donc, vous voyez les difficultés dans lesquelles les hommes spirituels, les témoins de Jésus, les vrais convertis, doivent prêcher la parole et remettre les choses au point. Ça, c'est au IIIe siècle. Maintenant, bien sûr, j'aurais pu prendre d'autres textes bibliques aussi, hein. Au IVe siècle, en 315, Monsieur Constantin, l'empereur, se convertit. Il allait perdre une bataille, il y a un chrétien qui lui dit « on va prier », etc. Il gagne, il se convertit. Conversion, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est historique. Bon, 13 ans après, il a fait assassiner son beau-père. Bon, je ne sais pas si quand on est né de nouveau, on peut se permettre ça, si on le fait. Toujours est-il qu'en 317, voilà, le christianisme devient religion d'État. Fini, on ne persécute plus, les chrétiens peuvent circuler, ils peuvent avoir des locaux publics, etc., des maisons de l'Empire, de l'Empereur Basileus, les maisons de l'Empereur Basilique. D'où le mot qui existe toujours, et qui sonne bien à l'oreille. Alors, le christianisme se trouve confronté à une chose, c'est le succès. Et quel succès? Le nombre? Eh bien, c'est pas si vite dit. Je vous ai déjà expliqué que Constantin avait fait rentrer des troupes entières avec le casque, le bouclier, la lance dans des grandes piscines et il y avait quelqu'un au-dessus, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça y est, ils étaient chrétiens. C'est de la blague. Mais ça a marché. Plus la blague est grosse, plus elle marche. Et il y a eu des baptêmes au point qu'il y avait 6-7 millions de chrétiens et quelques années après, il y en avait 80 millions. C'est comme si tout d'un coup, l'eau donne la vie éternelle. Alors, pensez à Marc, chapitre 16, verset 16. « Celui qui croira en moi, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas en moi sera condamné. » Donc vous voyez bien dans cette phrase, Marc 16, 16, que le baptême ne sauve pas. Dans Romains, au chapitre 1, verset 15 et 16, « Le juste vit par la foi. » Dans Habacuc aussi, chapitre 3, verset 4, « Le juste vit par la foi. » Non, la foi, c'est ce qui sauve. C'est le chemin de la confiance dans l'œuvre de Christ en moi, dans l'œuvre de la croix, de sa résurrection, et de l'œuvre de Christ et du Saint-Esprit en moi. C'est la foi. Mais le baptême, ici, de Constantin, n'est pas une question de foi. Si Constantin n'avait pas fait ça, son empire se serait sans doute écroulé dans les 20 ou 30 ans après, parce qu'il y avait des assauts sur toutes les frontières. Alors, il a mis des chrétiens dans toutes les garnisons, à toutes les frontières. Et ceux-là ne reculaient pas, ils étaient fidèles, ils avaient donné leur parole, et ils défendaient les frontières. Si bien que l'empire a duré deux siècles et demi en plus. Ce qu'il y a, c'est un bon calcul de la part de M. Constantin. M. Constantin s'est fait appeler ensuite, parce qu'il a eu la faveur des dirigeants, pas de tous, ec apostolis, c'est-à-dire apôtre parmi les apôtres. Alors il prend une autorité spirituelle. D'où cette habitude qui est venue dans la chrétienté, un prince évêque. Il a un territoire, il a des armées, il a de l'argent, il fait des affaires, il élimine des gens qui ne lui plaisent pas, et il est évêque en même temps. Ou le roi soleil, un roi de pouvoir divin, Louis XIV. On en arrive à la coalition du politique et du spirituel. Or, vous savez très bien que Jésus a dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous allons aller voir dans l'Évangile. Je pense que c'est dans Luc 20, 25, mais si je me trompe. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, c'est clairement expliqué dans la parole, dans l'enseignement de Jésus, « Donnons à César ce qui est à César, le respect, etc., les impôts, mais donnons à Dieu ce qui est à Dieu, la foi, l'adoration, l'obéissance. » J'ai cité plusieurs versets bibliques l'autre jour, je ne les reprends pas, vous pouvez retrouver le message sur Facebook. Bon, maintenant, le troisième empereur, le troisième, décide et demande à tous les évêques, aux responsables religieux à qui il faisait beaucoup de cadeaux, des beaux locaux, protection de l'armée sur les autoroutes, les voies romaines, pour aller annoncer l'évangile, il demande un titre qui est énorme, ec episcopos, évêque parmi les évêques. Ça y est, avec ça, il a le droit de réunir les conciles. C'est ce qu'il va faire, il va réunir plusieurs conciles, dont celui de 321 à Éphèse et 331. Et là, toutes les prières Artémis, la grande déesse à laquelle s'était affronté Paul, Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 35, et vous, Éphésiens, dont la fameuse gardienne est Artémis, reine du ciel, et son simulacre d'être tombé du ciel, hein, eh bien, pratiquement, beaucoup de gens se sont repentis, ont refusé. Puis c'est fait après, chassé, malmené, etc. Il y a eu un grand combat. Mais ce qu'il y a à la même ville, plus tard, un empereur qui se dit évêque parmi les évêques, réunit un concile, enferme tous les responsables d'église dans le bâtiment de la basilique, ferme à clé, met des soldats dedans et dehors, et il y a des coups qui s'échangent, Il y a des blessures, il y a un évêque qui meurt de ses blessures. Et la prière pour Artémis, reine du ciel, reine du monde, médiatrice. Hein? Tout cela est conservé dans le texte, et aussi on barre Artémis, on met Marie, mère de Dieu. Nous y voilà, un des grands dogmes de l'Église catholique. Alors, chers amis, les conciles menés par les hommes politiques qui se disent spirituels n'ont pas de valeur. Dans le monde évangélique, on n'accepte plus de reconnaître les conciles après Nicée, Chalcédoine, 309 et 313. Tout ce qui vient après Constantin, où la politique a mis son nez dans toutes les affaires des églises chrétiennes, on n'en veut plus. Balayé. Vous pouvez comprendre que dans le mouvement qu'on appelle catholique ou orthodoxe, on continue à accepter tous les conciles qui viennent après et où la politique et le religieux se sont mélangés. Mais pour ceux qui ont la foi dans la parole de Dieu et en Christ, il est impossible d'accepter des impostures pareilles. Vous comprenez maintenant un peu ce que ça devient le catholicisme à votre point de vue? Faites-vous une idée? Réfléchissez à ce que j'ai dit, vous pouvez revenir, on peut faire une retraite de 3-4 jours, je peux reprendre plein de textes, des exemples, des situations, mais là ici je dois faire vite sur Internet. Ensuite, en 365, à Carthage, c'est la Tunisie, tout près de Tunis, Saint Cyprien de Carthage, que j'appellerai Cyprien tout court, mais Saint Cyprien pour les chrétiens catholiques, invente le prêtre chrétien, un intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'est un intermédiaire sacré. On va mettre les mains sur lui, il va avoir un statut sacré et il va être un intermédiaire. Je peux demander au prêtre de prier pour moi. Il a autorité auprès de Dieu. Dieu l'entendra. Et le prêtre chrétien est devenu un intermédiaire obligé, reconnu par Rome, reconnu par les églises, autant à l'Orient que l'Occident, et il est toujours là, le prêtre. Or, je vous ai dit que dans Hébreux, chapitre 7, verset 24, le sacerdoce de Jésus-Christ, donc la qualité de prêtre, est intransmissible à l'homme. Hébreux, chapitre 7, verset 24. Il n'est donc pas question de refaire des prêtres après Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul prêtre que nous avons devant Dieu qui intercède pour nous. Vous pouvez lire de verset 24 à verset 28, chapitre 7 d'Hébreux. Je vous conseille d'aller lire aussi chapitre 5, verset 4 à 10. On traite, Apollos, qui a écrit l'Épître aux Hébreux, traite ce sujet aussi, chapitre 5, verset 4 à 10. Et puis, vous pouvez lire la première Épître de Pierre, chapitre 2, verset 9 et 10. Voilà. 50, 60 ans se passent, et puis voilà. Un grand champion de la foi qui est né dans la même région que Cyprien de Carthage, mais pas à Carthage, à Hippone, c'est Monsieur Saint-Augustin. Monsieur Saint-Augustin va défendre la grâce, le salut par grâce, etc. D'immenses beaux écrits, d'immenses belles qualités sont donnés, sont dans les écrits de Saint-Augustin, Augustin, de Hippone. Mais, il ne va pas contester cette histoire de prêtre, d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, alors que c'est mis dans la Bible, il ne faut pas. Hein? Vous savez bien que dans l'Épître à Timothée, je vais vous le rechercher, il n'y a pas d'autre intermédiaire que Jésus-Christ entre Dieu et les hommes. Bon, alors... Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il vaut mieux que je donne les références, vous alliez voir, parce que vous mettriez en doute cela. Première Timothée. C'est peut-être la deuxième, je vais voir.
Merci.
2:5. 1 Timothée 2:5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage de tous les apôtres, rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Je suis chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, clairement, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Eh bien, écoutez, Monsieur Saint-Augustin n'a pas oublié un peu ça. Oui, il a dit, mais que c'était le Christ qui travaillait à travers le prêtre, etc. Bon, c'est beau tout ça, mais si le Christ a besoin des hommes pour parler aux hommes, le Christ est Dieu. Il a choisi le Saint-Esprit pour parler aux hommes. Il n'a pas choisi des pécheurs. Le Saint-Esprit est divin. Il a choisi sa parole. Elle est divine, elle est sainte. Comprenez bien qu'il y a une différence. Alors, on a fait une marche arrière, évidemment. Évidemment, puisqu'on remet entre les chrétiens et Dieu des êtres imparfaits. Alors, il y a bien sûr, dans les mains de ces prêtres, des grâces, des moyens qui vont être donnés suite à Augustin d'Hippone, c'est les sacrements. Le baptême devient un sacrement qui donne la vie éternelle. Le pardon des péchés par le prêtre va donner la vie éternelle. Le mariage est un acte sacré de vie éternelle, etc. Il y en a 7 dans l'Église catholique. Dans le monde de la Bible, nous ne reconnaissons que 2 choses. Et ce ne sont pas des moyens de sauver. C'est seulement la foi qui sauve. Mais 2 choses que nous reconnaissons, qui ressemblent un peu à l'Église catholique et orthodoxe, quand nous donnons le pain et le vin, sans dire que c'est le corps et le sang de Christ, c'est un geste que Jésus a fait et qu'il nous demande de faire. La Sainte Cène, qu'on peut appeler Eucharistie, parce que de toute façon, c'est un mot qui veut dire « rendons grâce ». Mais ce qu'il y a, il y en a un autre moyen. Le baptême. Le baptême est un signe d'engagement pour Dieu, un signe de témoignage aux autres et d'obéissance. Mais il n'est pas un moyen de salut. Or, dans l'Église catholique, on définit, en constitution Lumen Gentium du Vatican II, moi j'ai dû étudier tout ça, eh bien pratiquement, pour être prêtre, que les sacrements sont des signes et des moyens de salut. Or, pour nous, pas question. Le signe et le moyen de salut, c'est le sang de Christ à la croix et sa résurrection. Et nous avons 2 symboles de la foi, c'est la Sainte Cène et le baptême. Mais ce ne sont pas des moyens de salut. Ce sont des signes du salut. Alors, vous voyez à quel point on a dérapé, chers amis. Oui, oui, oui. Et nous sommes au 4e siècle. Et c'est à ce moment-là que tout ça va se répandre à travers la Méditerranée sur toutes les autoroutes, les chaussées romaines, partout. Alors, je vais retourner à Matthieu 13. Matthieu 13, pour vous expliquer d'autres paraboles que Jésus a données concernant cette situation spirituelle du 4e siècle. Et c'est pas rien. Jésus a tout annoncé, il connaît tout, il sait tout, il est divin. Il n'y a qu'à nous de nous plonger dans l'Écriture et demander à Dieu son aide pour comprendre ce qu'il a dit. Vous savez qu'il y a plusieurs paraboles dans Matthieu chapitre 13, il y en a plusieurs. Eh bien, voici une autre, c'est la 3e, verset 31. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris à semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Tout le temps que j'étais catholique, j'ai pensé que c'était l'image du royaume de Dieu qui se répandait, et de tous les oiseaux, c'était les convertis, les enfants de Dieu. Oh. Même quand je suis devenu chrétien évangélique, tout un temps, cette idée est restée en moi. Et puis, il faut consulter des autres quand on cherche, pas tout seul. Et des gens qui sont, viennent du judaïsme, qui connaissent mieux l'évangile de Matthieu, qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau. Donc, en cherchant et en consultant des personnes, en voyant des écrits, des livres d'exégèse, des commentaires sérieusement faits de la Bible, voici ce qu'il faut comprendre. Le christianisme est tellement faible, au 3e, 4e siècle, comme un petit grain de sénévé, et il va donner un buisson de 3-4 mètres de haut. Pas plus. C'est pas un sycomore, un cèdre, un chêne, un séquoia. Voilà ce que c'est. Et il a des branches, etc. Et il a des feuilles, évidemment. Donc, il y a des vrais chrétiens, ça symbolise les vrais chrétiens, mais quelque chose de faible. C'est pas un palétuvier tropical. C'est pas un arbre qui va faire 30 mètres cubes de bois. Non. C'est un arbre qui fait 3-4 mètres de haut, et si on en retire un mètre cube de bois quand on est là-bas, c'est bien, ou deux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a les oiseaux dedans. Ah ah. Et qu'est-ce que ça représente, les oiseaux? Eh bien, vous allez au Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui était semé dans son cœur. Les oiseaux, c'est des gens qui n'ont rien compris. La parole n'est pas dans leur cœur, mais ils sont venus s'ajouter dans l'église. Ils sont venus s'ajouter dans l'arbre faible. Et c'est tout, hein. On était à 4-5 millions de chrétiens. Avec Constantin, on passe à 80 millions. Voilà. L'arbre est rempli d'oiseaux qui volent la parole de Dieu. Ils n'en ont sûrement pas besoin. Ils sont là pour la manger, pour la dévorer, mais pas la croire. Alors, vous trouvez, chapitre 13, verset 4, « Les oiseaux vinrent et la mangèrent, la parole de Dieu. » Clairement, Jésus a déjà annoncé le gros problème de la religion de la multitude, du baptême de la multitude, sans la foi, sans conversion, sans nouvelle naissance. Jésus a annoncé les preuves de la foi pour le petit arbre. Le petit arbre va avoir tellement d'oiseaux. Eh bien, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Alors, il est clair, chers amis, qu'il faut être patient, il faut accepter, c'est l'histoire. Jésus la connaissait avant nous. Il faut accepter ce que Jésus a annoncé. Nous sommes passés, nous sommes héritiers de cette histoire chrétienne, qui nous paraît invraisemblable. Mais vous savez, si on regarde bien de tout près aujourd'hui, c'est pas beaucoup différent. C'est quelque chose qui peut nous instruire sur la façon dont on développe les églises, dont on développe la parole de Dieu, et puis tout d'un coup, l'arbre, oui, il pousse, il y a des branches et tout ça, et puis il y a plein d'oiseaux qui viennent dedans. Vous savez, on aime le nombre, parce qu'on aime le succès. Est-ce qu'on aime les fruits? Ça, c'est différent. Il est difficile d'être paisible et heureux si on a 10, 15 dans un groupe chrétien et qu'il n'y a pas d'autres. Mais on est très content si on est 50, 200, 300. Et si on a fait 10, 15, 20 baptêmes tous les ans. Et beaucoup de missionnaires sont récompensés, congratulés, aidés par leur mission s'ils ont fait beaucoup de baptêmes. On en revient à l'arbre et aux oiseaux. C'est incroyable comme Jésus a bien parlé et a dit vrai. Vous m'avez, cette jeune fille Déborah de Champigny m'a demandé d'expliquer le catholicisme. Je pense que vous avez compris. Il y aura toujours du blé livré, des brebis et des boucs. Il y aura toujours l'arbre et puis il y aura toujours plein d'oiseaux dedans. Et c'est jusqu'au retour de Jésus. Et ça, la plus grave erreur, c'est de croire que ce n'est que chez les catholiques et les orthodoxes, ou les protestants. Attention à nous, évangéliques. Attention à l'apostasie. Alors, tout ce christianisme qui nous a apporté l'évangile, qui nous a amené la grâce, la parole de Dieu, parce que la parole est impérissable, elle a été transmise. Nous ne pouvons qu'accepter l'histoire telle que Dieu la connaissait à l'avance. Nous ne pouvons qu'accepter que le royaume des cieux est fait de faits contradictoires que la parole de Dieu à tout bout de champ est contestée, que l'autorité du Saint-Esprit est contestée. Nous devons accepter cette idée que Matthieu a développée par le mot « royaume des cieux », que ce sera seulement quand Jésus reviendra qu'il va trier les brebis des boucs, Matthieu 25, et qu'il va établir son royaume avec les vrais enfants de Dieu. Donc, l'Église, depuis le début, mort et résurrection de Jésus, Pentecôte, jusqu'à son retour, l'Église est imparfaite, elle n'est pas le royaume de Dieu. On peut l'appeler royaume des cieux, en tout cas, le royaume des cieux s'y développe. Mais il y a des théologiens qui disent, non, nos églises, c'est le royaume de Dieu. Eh bien, je veux bien, s'ils le prêchent, ils en rendront compte à Dieu. Il y a un sens qu'on peut accorder aujourd'hui, spirituel, qui est valable. C'est Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, c'est paix, justice, amour, joie selon le Saint-Esprit. Ça, on peut l'accepter pour aujourd'hui. Mais mis en pratique dans la réalité, dans nos institutions chrétiennes, dans nos églises, etc., il faut admettre que le royaume des cieux est un royaume contesté. La parole est contestée, la parole peut être déformée. Il y a des chrétiens qui ont l'amour de Dieu et d'autres qui les contestent. Galates, chapitre 4, verset 29. Alors, chers amis, moi, j'enseigne tout cela, non pas pour qu'on se décourage, mais le profond réalisme de Dieu, la profonde réalité de la parole de Dieu nous parle pour faire de nous de vrais combattants de la foi, pas des nigauds de la foi. Galates, chapitre 4, verset 29. De même qu'alors celui qui était né selon la chair, donc qui reste humain, et qui persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ok? Où est-ce que je dois m'arrêter, chers amis? L'autre jour, j'en finissais plus ou moins au fin du 4e siècle. À la fin du 4e siècle, j'ai donné des versets bibliques, je ne les ai pas tous donnés. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que l'Église ne sauve pas les hommes perdus, les pécheurs. Elle n'a pas de moyens en dehors de la parole de Dieu et de la foi et de l'autorité de Dieu sur l'âme du pécheur. Nous n'avons pas de moyens de sauver par des sacrements les humains. L'Église ne sauve pas. Nous n'avons pas moyen de sauver des humains par des pasteurs ou des prêtres ou des évêques ou un pape. C'est pas le vrai l'Évangile. Alors, au 5e, 6e siècle, puisque on a les feux verts partout, expansion du christianisme politico-religieux. Je veux dire, c'est mitigé, etc. En vous disant qu'il y a vraiment des enfants de Dieu, et puis il y a les autres. Il y a de véritables enfants de Dieu qui ont porté des témoignages dans les populations gauloises, chez les anglo-saxons, chez les Ibères, hein, donc en Espagne, etc. Un peu partout, chez les Numides, l'Algérie, il y a eu une extension phénoménale de la foi. Et il y a toujours eu cette extension, de véritables enfants de Dieu sont apparus, nés de nouveau, et puis il y a les autres qui ont une étiquette de chrétien et que vous voyez dans la deuxième épître, le blé est livré. C'est inhérent, Dieu a permis que ce soit comme ça. Donc on ne va pas râler, on ne va pas baver sur ceux qui ne sont pas réellement nés de nouveau, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier pour que la vérité gagne dans toutes nos assemblées. Et pas se fier à l'apparence. Il faut toujours sans cesse prier, éveiller et jeûner, parce que le mensonge peut s'établir dans l'Église, et même dans ma vie aussi. Nul n'est à l'abri de chuter. Alors, au 5e, 6e siècle, cette expansion-là va se faire partout, mais partout. Et Il y a eu, dans les propos de saint Augustin, une annonce du retour de Jésus et de l'arrivée du millénium pour le VIe siècle. Et puis ça ne s'est pas produit. Grave déception. On a reporté ça plus tard, l'an 1000, hein, chiffre fatidique, l'an 1000 comme l'an 2000, hein, et puis ça n'a pas eu lieu. Tout compte fait, on s'est dégoûté de parler du retour de Jésus-Christ et du royaume. Puisque Jésus avait dit de ne pas fixer l'heure, et qu'il ne voulait pas le dire lui-même, ça n'appartenait qu'au Père, eh bien il y en a qui ont, ils ont eu le toupet de le dire. Et puis on s'est trompé, et la foule qui composait la chrétienté s'est dégoûtée de l'idée du règne de Christ sur terre. D'où est apparue la nouvelle idée que c'est l'Église sur terre qui est le royaume de Dieu. Oh, ça a vite fait. Hein. Ça mijote. Et alors, ça, c'est la fausse doctrine. Prenons Matthieu 13. Matthieu 13, encore une parabole. Vous connaissez cette parabole du levain, n'est-ce pas? Voilà. Matthieu 13, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Donc le levain, c'est bon, c'est de la bonne farine, etc. Non trafiquée, hein, de préférence. On la met dans un récipient, on met de l'eau, et puis, etc., et on laisse mijoter ça 2-3 jours. Et puis, tout d'un coup, on amène de l'eau de farine, on mélange tout ça. Donc, tout compte fait, imaginons que la parole de Dieu est prise, on y croit, on la réfléchit, on la célèbre, la foi chrétienne est une réalité. Puis, tout d'un coup, il y a de l'eau de farine qui arrive, etc., de la bonne farine, et puis tout se mélange. Et ça gonfle, et ça gonfle. Et qu'est-ce qui se passe? On peut croire dans ce sens-là que le pain va être bon. Un très bon pain ou le vin, donc le christianisme est très bon. Mais ce n'est pas la bonne interprétation. Pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. À travers l'expansion du 5e, 6e siècle. Ce n'est pas ça. Donc, simplement, le levain, c'est le mauvais enseignement. C'est le mauvais enseignement et c'est Jésus l'a dénoncé chez les pharisiens, eh bien on peut le dénoncer à travers la chrétienté. Il y a des faux enseignements, il y a des gens qui apportent un faux enseignement, un enseignement modifié, frelaté de la parole de Dieu. On va vous baptiser, hein, vous allez recevoir le sacrement, vous serez sauvés, etc. Ça c'est du levain. Vous avez péché, ben on va vous pardonner, allez auprès du prêtre, vous ferez une neuvaine, vous ferez un pèlerinage, ah ben... Vous allez donner de vos biens hein, pour aller au paradis puisque vous êtes riche et vous allez être sauvé. Bon, tout ça existe, ça a toujours existé depuis longtemps, depuis cette période du 5e, 6e siècle. Alors, c'est ça qui a fait la force de l'Église. C'est la séduction qu'on a appelée catholique. Mais il n'y a pas que la catholique. Il y a ça chez les orthodoxes, on trouve ça aussi chez les protestants. Et pour finir, on arrive à trouver, il faut faire le tour du monde, il y a des bonnes petites églises évangéliques, des églises évangéliques fidèles à la parole de Dieu, puis hein, les autres, elles sont loin du compte. Alors, ce qui se passe, c'est que le levain, c'est le mauvais enseignement, c'est la parole de Dieu frelatée, et qui amène, ça gonfle, on a l'impression que c'est du bon pain, et tout le monde va en manger. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la parole? 2 Corinthiens 13:8. Alors, les amis, je vous le dis parce que c'est avec ça que j'étais vacciné du levain que j'avais en moi. 2 Corinthiens 13:8. J'étais catholique, j'étais de bonne volonté. Oh, j'ai lu l'évangile à 16 ans et puis j'arrive à 40 ans, 41 ans et j'étais tout seul, je disais Seigneur, j'ai tout fait, j'ai fait des mouvements de jeunesse, j'ai tout fait. Il n'y en a pas un converti. Si je meurs, il n'y en a pas un qui prononce l'évangile. Seigneur, j'ai tout raté. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Parce que mon levain était mauvais. Eh oui. Eh bien, vous savez, 25 ans de ma vie au bac. Mais je suis content maintenant. Deuxième aux Corinthiens 13, 8. C'est une humiliation sans doute qui était nécessaire. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons pas l'autorité du Saint-Esprit pour amener des gens à comprendre leur péché, à comprendre le sacrifice de Christ, à comprendre la nouvelle naissance, à comprendre le don qu'il faut faire de soi à Dieu, à comprendre que l'œuvre de l'Esprit Saint arrive dans leur vie. L'autorité de la parole de Dieu leur est nécessaire. Et que Christ est vivant, ressuscité. Nous n'avons pas cette puissance. Pourquoi? Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Parce que nous avons Jésus, et nous avons arrangé des choses alentour. L'humanisme, l'évangile social, les œuvres caritatives. Il en faut, bien sûr. Et puis quoi? L'humanisme. J'ai même voté communiste dans ma vie, vous imaginez. Et je pensais bien faire. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. J'ai pensé même que l'autogestion, et je vous le dis franchement, je suis tombé le bec dans l'eau, que l'autogestion dans l'entreprise allait améliorer le cœur de l'homme qui en avait, qui viendrait à Dieu. Courez toujours. Jésus, je les ai eus sur le dos. Quand un jour, mon plus proche collaborateur m'a dit, il est venu auprès de Marie-Hélène et de nos enfants en disant, « Jean, si tu continues à croire dans la résurrection de Jésus-Christ, je quitte l'entreprise. » Vous avez vu? Il était contre la vérité et il voulait que je sois contre. Et moi, j'avais du levain. Je pensais qu'il allait devenir un brave type et puis venir à Jésus. Le levain ne sert à rien. La vérité de l'évangile, avec quelque chose de retranché, quelque chose d'ajouté, c'est du levain. C'est une grosse confiture, ça ne sert à rien. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Donc, nous avons une puissance, pas morale, physique, politique, financière. Nous n'avons qu'une puissance que pour la vérité. Aletheia. Et Jésus a dit, je suis chemin, vérité et vie. Jésus seul. La parole de Jésus seul, le Saint-Esprit seul. Eh bien, vous pouvez... Le bilan, quand je l'ai tiré, chers amis. Bon, 26 ans au bac, mais j'étais quand même content que la perfusion était arrivée. Mon levain était vacciné. Chers amis, toute la chrétienté connaît la blague du levain. Tout le monde passe par là. Il faut s'en dégager. Le mauvais enseignement, la mauvaise compréhension de l'évangile. Chers amis, si vous avez compris ça, vous avez gagné beaucoup de choses aujourd'hui. Mais ça a été dur pour moi d'avouer que 26 ans, j'ai pédalé dans le vide. Et c'est Dieu qui l'a permis. Quand on se fait humilier, Dieu peut nous relever. Alors, il veut nous relever. Alors, et nous sommes tous dans le même cas. Nous devons passer par le brisement, par l'humiliation. Il faut être dans la vérité. Je suis la vérité et la vie. Le chemin. Alors, durant ces 5e, 6e siècle, il y a eu une hérésie énorme dans la France qui s'est... C'est un moine de Tours, c'est Pélage. Pélage a inventé une hérésie terrible, mais ça ressemblait un peu à mes pensées. C'est que l'homme peut arriver à Dieu par lui-même, par ses qualités, par la nature, par son savoir-faire. Mais c'est ce que j'ai essayé pendant les 26 ans, le pélagianisme. J'étais un pélagianiste sans le savoir. J'étais dans le... Et je l'avais étudié en théologie, quand j'étais prêtre. Et puis je l'avais en pleine... dans le cœur, et je ne le savais pas. Vous savez, les idées dans le cerveau, et voir son cœur, c'est différent. Pour voir dans son cœur, il faut que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux du cœur. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, Paul dit, « Je prie, je fais mention dans toutes mes prières de vous, afin que l'Esprit de gloire illumine les yeux de votre cœur. » Eh bien ça, Ça vient pas de l'humain. Et donc, nous tous, qui voyons des hommes qui se disent chrétiens et qui sont dans le pélagianisme, qui sont dans toutes sortes de levains, il faut prier, il faut faire mention d'eux dans l'action de grâce. Il faut recourir à la grâce pour qu'ils se sortent de toutes ces mensonges du diable ou du péché. Une grande hérésie, le pélagianisme. Ça, c'était en France. En Algérie, dans le nord de l'Afrique, qui était très puissante, mais qui était jugulée férocement par Rome, hein, qui a massacré beaucoup de gens là-bas, il y a eu le donatisme. Alors, le donatisme, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que dans toutes ces églises où il y avait des prêtres, il fallait qu'ils soient parfaits pour être prêtres. Il faut que l'évêque soit parfait. S'il a des péchés, il a des défauts, etc. Non, non. Alors, il y avait une rigueur, un esprit de jugement qui est venu, un esprit de sélectif, un esprit de pharisien qui est venu. Et bien sûr, Augustin, qu'on a appelé Saint-Augustin, Augustin d'Hippone, qui vient de cette région, a dit « Non, non, ça c'est pas chrétien, ça. » Quand quelqu'un est dans la grâce, qui croit en Jésus-Christ, on n'a pas le droit de regarder à la paille dans ses yeux. On n'a pas le droit de le condamner. Il faut laisser faire la grâce agissante. Il y a des très beaux écrits d'Augustin sur la grâce, les amis. C'est formidable. Mais attention, c'est un homme. Tout n'est pas à prendre. Et ce qui s'est passé, c'est que Augustin a dénoncé toutes ces églises du nord, les églises donatistes du nord de l'Algérie, du Maroc, etc., de Tunisie, les donatistes. Et Rome en a profité. Il a envoyé les armées. Il a pillé et saccagé des milliers d'églises. Voilà Rome, avec l'appui, l'approbation de l'évêque de Rome. Nous y voilà aux guerres de religion. Il n'y a pas besoin d'attendre le protestantisme. Là, on commence réellement à saccager la chrétienté entre chrétiens. Enfin, ceux qui disent chrétiens. Chers amis, à partir de cette époque-là, les divisions deviennent sanglantes. Eh oui. Dieu le savait. Il savait qu'on était capable de ça. Il veut nous confondre dans notre folie, notre orgueil. Il faut voir notre péché. C'est ça la vérité. Donc le christianisme était devenu une religion d'État, une religion de conviction, une identité. Hein. Je suis de l'église de ci, l'église de ça, et puis tout compte fait, on a oublié Christ. Et ces guerres, ce n'a pas été un cadeau. Je vous parlerai la fois prochaine du papisme. Comment est arrivé le pape? Donc nous sommes lundi. Donc mercredi, je serai à la maison, donc à 18h, je vous parlerai de l'apparition du papisme. Comment on s'y est pris pour que l'évêque de Rome devienne appelé pape? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'Empire romain est tombé, crac, boum, et que quand les Vandales sont arrivés et tout ça, tout d'un coup ils reconnaissent l'évêque de Rome comme un chef politique et religieux en même temps? Belle astuce, n'est-ce pas? Eh bien, pratiquement, il faut voir tout ça. Comment se passe-t-il qu'à un moment donné, l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople, le même jour, s'envoient une lettre qu'on appelle une bulle, c'est beau, hein, le mot bulle, eh bien, une bulle d'excommunication à propos du Saint-Esprit, à propos d'un verset. Ils trouvent une excuse, une belle excuse, sur la parole de Dieu. Ils sont tellement saints, ils prennent la parole de Dieu pour se haïr. Eh bien, l'excommunication de l'un et de l'autre a créé la scission du monde orthodoxe et du monde catholique. Je vous parlerai de tout ça. Ne croyez pas que je suis en train de semer le désordre et le découragement. Jésus-Christ est vivant. Il y a toujours eu des chrétiens qui aimaient la parole de Dieu. Il y a toujours eu réellement des enfants de Dieu à travers toutes les époques. Comme aujourd'hui, il y en a encore. Ne vous sentez pas seul. Pensez à Élie. Il est dans la montagne. Et il est déprimé, il va pleurnicher là-bas tout près de Dieu. Il dit, je suis tout seul, tu m'as abandonné, ils m'ont tous abandonné. Et Dieu lui dit, quoi? Non, non, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Et bien, moi, je pense qu'on peut dire, il y a des centaines de millions de chrétiens qui ne fléchissent pas le genou. Il y a des centaines de millions. Bien sûr, il y a des centaines de millions aussi qui font n'importe quoi. Ne prenez pas toute la réalité qu'on vous donne dans l'information comme un outil de désinformation, de découragement. Regardez l'évangile. Jésus est puissant pour vous garder dans la foi. S'il vous plaît, ne regardez pas au monde, regardez à Jésus. Et Paul avait bien compris que ça tournait mal si les chrétiens regardaient trop le monde. Il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3, « Regardez, affectionnez-vous aux choses d'en haut, regardez pas sur terre, affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Colossiens chapitre 3, verset 3. Voilà, je termine avec ce verset. Merci pour les petits cœurs et tout ça, ça me fait du bien. Soyez bénis. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à sa parole. Amen.